Dialectique sur RCN, Lionel Courchine.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis à 13h. Et aujourd'hui dans Dialectique, nous allons parler de conflits, nous allons parler de frictions, de tensions, comment les gérer et plus particulièrement des tensions avec les adolescents, hein, cette tranche d'âge où on se remet en question, où on parle parfois même de crise d'adolescence. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Agnès Nicolas Schmitt qui fait de l'éco-médiation. Bonjour Agnès.
Bonjour Lionel.
Et j'ai le plaisir aussi d'avoir par téléphone Hugo Varnusson qui est psychologue, clinicien, psychothérapeute et chargé d'enseignement à l'IRTS et à l'IFSI. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Alors, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux hein, dans ce dialectique. Il y a une question vraiment qui est importante, c'est comment gérer la crise d'adolescents. Hugo, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà premièrement, en quoi consiste la crise d'adolescence et pourquoi c'est une période particulièrement difficile, autant pour les jeunes que pour les parents?
Alors, déjà, merci pour votre invitation. Je salue les auditrices et les auditeurs. On commence du coup avec une question qui est pas évidente, hein, qui est assez complexe. D'ailleurs, elle est tellement complexe que tous les professionnels sont pas toujours d'accord hein, sur cette question-là, notamment sur la définition de l'adolescence, de son début, de sa fin, quand ça commence, quand ça termine, et aussi sur le mot de crise, le qualificatif de crise, qu'on verra un petit peu plus tard dans l'émission, qui n'est pas toujours adapté pour parler d'adolescence. Alors, déjà, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'adolescence, il faut ni la pathologiser, ne pas en faire une maladie, ni la banaliser. C'est-à-dire que ce n'est pas une période qui est non plus facile à vivre pour les adolescents. Il y a plusieurs critères qui nous permettent d'essayer de cerner un petit peu ce que c'est l'adolescence, ce que peut être une crise d'adolescence. Déjà, il faut pouvoir remettre l'adolescence dans son contexte, dans un contexte qui est sociétal. Hein. En fait, l'adolescence, c'est quelque chose qu'on subit et qui n'est pas un choix. Socialement, habituellement, jusqu'à il y a encore quelques années, on pouvait voir dans les sociétés des rites de passage qui permettaient de passer de l'enfance à l'âge adulte, et c'est cet entre-deux qu'on pouvait appeler l'adolescence et qui permettait voilà, cette transition. Aujourd'hui, dans la société, il y a de moins en moins de rites, en tout cas pour ce qui est dans la société occidentale, et on va repérer peut-être des avatars un petit peu de ces rites-là, comme peuvent être le permis de conduire ou le baccalauréat. Mais c'est des choses qui se perdent et qui pourtant sont importantes pour les adolescents, pour se repérer, et pour la société aussi, pour identifier et différencier les différents âges, les différentes catégories de population.
Là, vous soulevez une question importante, hein, je me permets de vous interrompre. Vous avez parlé de cette question d'âge. Aujourd'hui, c'est vrai que est-ce qu'on peut définir quand est-ce que l'adolescence commence, quand est-ce qu'elle s'arrête? Parce qu'on parle même souvent d'adolescence. Alors, est-ce qu'il y a des frontières à tout ça?
Alors, on parle d'adolescence, c'est aussi parce que c'est une période, en fait, historiquement, on voit qu'il se rallonge, qu'il devient un petit peu élastique. Là où auparavant on avait des rites très précis, et il y a même dans certaines sociétés et dans certaines cultures un passage qui se fait presque du jour au lendemain, de l'enfance à l'âge adulte. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On voit quelque chose qui s'étend. C'est plus simple de définir le début de l'adolescence. En tout cas, les chercheurs et les professionnels de l'enfance et de l'adolescence sont plutôt d'accord sur le fait qu'on peut identifier le début de cette période-là à la puberté, au déclenchement de la puberté. La puberté, c'est cette maturation biologique et sexuelle, hein, le corps qui se modifie et dans l'objectif de pouvoir permettre la reproduction. Avec tous les changements qu'on connaît bien, des caractères sexuels primaires qui évoluent, donc les organes génitaux, le pénis qui grossit, qui s'allonge, le clitoris qui se développe, mais aussi les caractères sexuels secondaires, la pilosité, la masse musculaire. Il y a aussi là-dessus tous les changements hormonaux, etc. Cette puberté, elle a un petit peu évolué aussi dans le temps. Elle se fait plus tôt aujourd'hui qu'il y a encore quelques années. En moyenne, pour les filles, elle débute à peu près à 11 ans et pour les garçons à 12 ans. Voilà, donc ça c'est plutôt un repère sur lequel on va être plutôt d'accord du début de l'adolescence. Évidemment, il n'y a pas que ces changements-là pubertaires, de la puberté, il y a justement aussi les changements qu'on va appeler pubertaires qui sont là le pendant de la puberté, mais sur le versant psychique, dont on parlera peut-être un petit peu après. Et pour ce qui est peut-être de la fin de l'adolescence, alors c'est là que ça se complique. Est-ce que ça dépend du critère qu'on va sélectionner pour définir la fin de l'adolescence ? Puisque finalement, l'adolescence, c'est un concept qui est construit. C'est pas quelque chose qui existe en tant que tel. Donc, on peut prendre un critère qui va être un critère, par exemple, le critère de l'autonomisation de l'enfant, à partir du moment où il est capable de subvenir à ses besoins. Ça peut être un critère. Ça, historiquement, on avait des critères plus marqués et bien connus comme le mariage. Aujourd'hui, ça tend à être de moins en moins un critère qui permette de définir le passage à l'adulte. Il y a le critère de l'accès à un emploi, par exemple. Mais on le voit bien, comme on est dans une société qui évolue, où par exemple les études s'allongent de plus en plus, les études supérieures qui peuvent durer jusqu'à 25 ans, voire plus pour ceux qui font des études de médecine par exemple, ou des études très longues. Alors tant qu'on est dépendant et que peut-être on reste chez papa-maman ou qu'on a besoin du financement de nos parents, est-ce qu'on est vraiment passé à l'âge adulte ou est-ce qu'on est encore un adolescent ? C'est des questions qui se posent.
Et ça, Donc on voit que ça peut durer jusqu'à très longtemps. Ça se reflète notamment par ce qu'on a appelé la génération Tanguy, hein, de ce fameux film où on a cet adolescent qui finalement refuse quelque part d'entrer dans l'âge adulte et dans ses responsabilités. On va y revenir. Là, je me tourne vers Agnès. Donc, on a parlé de cette question d'âge, de cette question aussi de changement, de mutation interne qui peut emmener à des conflits en soi-même et des conflits avec les autres. Mais avant de développer sur cette question de conflictualité et de la façon dont on peut la résoudre, est-ce que vous pouvez, on se tutoie à Agnès, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton parcours professionnel et les expériences qui t'ont mené à travailler aujourd'hui dans le domaine de l'éco-médiation, l'accompagnement des jeunes, et qu'est-ce qu'on appelle l'éco-médiation ?
D'accord. Déjà merci de m'avoir invité pour que je présente effectivement l'activité que j'ai créée. Ça fait à peu près 2 ans que je suis sur la création de cette activité que moi j'ai appelée l'écomédiation de vie. Donc mon parcours, déjà, en fait, moi j'ai toujours travaillé avec des enfants, auprès d'enfants, et ma dernière expérience professionnelle, j'étais conseillère à la mission locale du Grand Nancy pendant une 20aine d'années. J'ai fait également une formation en médiation familiale. Et il y a 2 ans, j'ai souhaité, créer mon activité et proposer quelque chose qui me ressemble, qui ressemble aux compétences professionnelles et personnelles que j'ai, et proposer un accompagnement, une aide auprès des familles qui peuvent rencontrer des difficultés. Avec des enfants. Alors moi, c'est vrai que la cible que j'ai, si je puis dire, c'est plutôt des adolescents ou des jeunes adultes, parce que je le sais pour l'avoir vu, rencontré dans le cadre professionnel, mais également personnel, qu'on peut être désemparé. Et on peut ne pas savoir vers qui se tourner dans ces moments-là. Certes, il y a des professionnels. Il y a des professionnels comme la personne qui est au téléphone. Il y a des psychologues, il y a des éducateurs. Chacun à sa place intervient avec ses compétences et avec ses réponses. Moi, j'ai souhaité du coup apporter quelque chose de différent. Et j'ai appelé ça de l'écomédiation de vie. Alors, pourquoi médiation ? Parce que je pense que ce qui est important, c'est la communication au sein d'une famille, avec les enfants, entre les parents. Donc ça, c'est quelque chose qui peut poser problème. Et c'est vrai que la médiation, je trouve qu'elle a sa place. Écomédiation. Alors pourquoi écomédiation ? Pourquoi éco ? En fait, pour moi, c'est la médiation écologique, si je puis dire. C'est-à-dire qui va prendre en compte tout l'environnement.
L'environnement. C'est une approche holistique.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est l'environnement familial, mais également l'environnement extérieur, je dirais même son propre, je dirais, environnement personnel. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'éco-médiation de vie. Bon, vie, pourquoi ? Bah, parce qu'on s'est accompagné dans la vie, c'est être dans la vie. Mmh. Donc, voilà comment je suis arrivée à faire, à créer cette activité et donc à la proposer. Alors, c'est tout nouveau. Mmh. Hein, j'ai vraiment, je dirais, c'est ce que je vous disais, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet-là qui vient du coup maintenant. Je viens me présenter et puis voir comment ça peut être du coup accueilli. Mmh. Là, j'ai démarré avec une première famille, ça fait quelques semaines. Donc, je dirais que je suis vraiment au début de l'activité. Donc, je vais découvrir aussi, parce que c'est pour moi, c'est apporter ce que je dirais, ma vision, ce que je sais, ce que je peux, je dirais, donner comme aide et comme conseil. Mais j'attends aussi beaucoup de ce que je vais pouvoir rencontrer dans chaque famille. Mmh. Parce que voilà, on vous parlait tout à l'heure, effectivement, de la crise d'adolescence. Bon, c'est la crise d'adolescence et la crise aussi peut-être des parents.
Comme la crise de la quarantaine.
Voilà, voilà. Mais je pense, bon, après, il y a effectivement des concepts, des choses qu'on peut dire que moi, je ne connais pas forcément d'ailleurs. Hein. Mais chacun, comme je disais tout à l'heure, chacun a sa place. Mais ce qui est important pour moi, c'est justement de pouvoir complètement individualiser. Chaque personne est complètement différente. Hein. On est des milliards sur cette terre et on est tous différents.
Justement, en parlant de différence, en quoi l'écomédiation, elle diffère des autres approches d'accompagnement familial ou de médiation, entre guillemets, classique ?
Bah, déjà, moi, j'ai souhaité aller au plus proche de la famille. Mmh. Et pour différentes raisons, donc je vais au domicile. Ma proposition, c'est d'aller dans là où habite la famille, là où habitent les parents, les enfants. Pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes qui restaient un peu coincés à la maison. Mmh. Qui n'arrivent plus à en sortir, qui peuvent rester quelques années comme ça, je dirais, un peu coincés dans leur chambre. Mmh. Donc avec des parents qui n'ont pas forcément, qui ne savent pas vers qui se tourner. Mmh. Donc ça, c'est je dirais, une première approche. Bon, c'est aussi pour être au plus proche, je dirais, de ce que vit la famille. Bon, tout en gardant une distance. Moi, je ne suis pas là du tout pour juger, au contraire. Mmh. Ce que je veux apporter, c'est quelque chose qui est très, très bienveillant et très humaniste.
Mmh. Et individualisé aussi.
Individualisé, hein. c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Voilà, c'est, je ne vais pas dire que c'est à la carte, hein, mais c'est ça. Voilà, chaque situation sera complètement différente, donc va me demander des ressources qui seront à chaque fois différentes. Après, vous me dites, qu'est-ce que je vais apporter moi ? Ben, je dirais un petit peu et beaucoup de moi, de la manière dont je vais aborder les choses, de la manière dont j'écoute.
C'est, du coup, finalement, ton expérience passée que tu mets à profusion de cette nouvelle activité.
Oui, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'aime. Et j'ai envie de le partager. J'aime aussi beaucoup être en relation, en contact avec les personnes, les écouter et pouvoir justement leur apporter cette écoute qui n'ont pas forcément. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres professionnels et d'autres personnes qui peuvent apporter leur aide. Moi, elle est,
elle a sa singularité.
C'est
quoi.
Ça, c'est la mienne, avec effectivement ce que j'ai appris. Bon, moi, j'ai aussi quelques outils que j'ai utilisés, que j'ai découverts, pour lesquels je me suis formée. Mais bon, Donc voilà, ouais. Après c'est vraiment en fonction des personnes que je vais rencontrer, des difficultés qu'on va évoquer. Mmh. Et puis, moi je suis pas là pour apporter des solutions. Mmh. C'est plutôt pour remettre en confiance. Parce que souvent, ben, on en perd de la confiance quand on est dans le conflit, quand on est dans la difficulté, qu'on n'arrive plus à se parler. Mmh. Donc c'est essayer de rétablir cette confiance. Mmh.
Et tout à l'heure, Agnès, tu évoquais les jeunes qui, par exemple, vont s'enfermer, mm-hmm. Soit dans leur chambre. Mm-hmm. Je pense qu'il y a aussi d'autres signes. Hugo, est-ce que y a des signes courants que les parents peuvent identifier pour reconnaître que leur adolescent traverse une crise ?
Alors, en effet, il y a des signes qui peuvent être identifiés, mais encore une fois, il serait important de faire la distinction entre les signes d'une adolescence normale, entre mm-hmm. guillemets, et les signes d'une crise ou de quelque chose qui se passe avec plus de heurts et qui peut générer de la souffrance pour l'adolescent ou pour ses parents. Ce qu'il faut retenir aussi à ce moment-là, c'est que 80% à 85% à peu près des adolescences se passent bien, sans qu'il y ait de difficultés majeures et sans que ce soit que ça nécessite forcément une prise en charge. Mmh. Alors, c'est une question qui est un peu complexe parce que l'adolescence, ça peut se passer sans bruit et c'est pas forcément un signe que ça se passe bien à ce moment-là. Et à l'inverse, ça peut faire beaucoup de bruit sans que ce soit un signe que ça se passe mal. Alors il y a pour repérer l'adolescence, bon voilà, il y a toutes ces transformations physiques qui sont visibles, mais il y a aussi toutes les transformations qui sont invisibles, dont Agnès a un petit peu parlé. Hein. C'est cet adolescent qui peut être un petit peu morose, qui va dire qu'il a envie de rien, qui ne sait pas quoi faire, qu'il s'ennuie. Un adolescent qui fait face à des changements d'humeur, voilà, qui sont dus aussi aux changements hormonaux, hein, qui l'assaillent de l'intérieur. Donc ça peut être des sauts d'humeur, par exemple. On voit émerger aussi parfois des tensions relationnelles, une prise de distance avec la famille qui est tout à fait normale et des adolescents qui, de manière générale, parlent moins. Ils passent beaucoup de temps dans la salle de bain à prendre soin d'eux, à explorer aussi leur corps. Ils expérimentent d'autres identifications au groupe de pères, par exemple, à travers le look. Ils peuvent essayer de s'habiller différemment de leurs habitudes. Parfois, il peut être négligé au niveau de son hygiène corporelle, mais à l'inverse, il peut être aussi tout à fait coquet. Voilà, ça c'est tous les petits changements qui sont signes qu'on est déjà dans ce processus-là de changement. Par contre, il faut être capable de repérer aussi les indicateurs de souffrance ou les signes qui seraient peut-être plus inquiétants. Alors, on en a plusieurs. Il y a par exemple des états dépressifs qui s'ancrent un petit peu dans le temps ou en termes d'intensité, des accidents qui pourraient se produire à répétition, des scarifications, des conduites suicidaires. Ça peut aller jusqu'à des problématiques qui sont lourdes comme celle-ci, des conduites addictives, des conduites violentes. En tout cas, pour évaluer un petit peu ces signes-là et leur gravité, savoir s'il faut s'inquiéter ou pas, il faut toujours un petit peu se poser 3-4 questions. Savoir si c'est l'intensité de ces signes, leur durée, leur fréquence, ça c'est les 3 critères principaux qui permettent d'évaluer la gravité un petit peu d'un signe. Si ça s'inscrit dans le temps, si ça dure, même si c'est un signe qui n'est pas forcément extrêmement inquiétant à prime abord, il faut se poser des questions. Si l'intensité est très forte, même si c'est très ponctuel, par exemple, voilà, des scarifications, des mises en danger, même si ça arrive une fois, ça doit questionner. Et la fréquence aussi, comme je le disais, ça peut être des petites choses peu intenses, mais un adolescent, par exemple, qui néglige son hygiène, mais tout le temps, qui n'est jamais en capacité de prendre soin de lui, quand bien même il est avec ses camarades, quand bien même il est invité à une sortie, à une soirée chez un ami, là, ça doit questionner, parce que l'adolescent, il est capable aussi d'adapter son comportement. Donc voilà un petit peu, si on devait brosser un portrait, la manière dont on peut se poser des questions pour savoir si ces signes sont inquiétants ou pas.
Donc là, Hugo, vous avez mentionné le fait que la crise d'adolescence, elle peut affecter la santé mentale des adolescents. Est-ce qu'il y a des troubles émotionnels qui sont courants, en tout cas qui sont le plus couramment associés à cette période-là de la vie ?
Oui, oui, tout à fait. En fait, l'adolescence, de par son processus, va mettre en lumière certaines fragilités parfois de l'adolescent et de cette période-là. Il y a par exemple des troubles alimentaires qu'on peut retrouver souvent. Alors statistiquement, c'est majoritairement chez les filles, comme l'anorexie et la boulimie, mais ça existe aussi chez les garçons. Il y a des conduites de dépendance ou de toxicomanie, la consommation excessive d'alcool, parfois d'écran. Alors il faut être vigilant avec la question des écrans, hein. Parfois on parle d'addiction, mais ça encore, ça ne fait pas consensus auprès des spécialistes, mais c'est quelque chose qu'on peut observer aussi chez les adolescents. Des conduites ordaliques, donc ce qu'on appelle des conduites à risque, des jeunes qui vont mettre leur vie en danger, parfois pour se sentir un petit peu exister, comme le binge drinking, ça on connaît bien aujourd'hui.
Alors ce qu'on peut pour nos auditeurs définir, voilà, définir le binge drinking.
Le binge drinking, c'est une pratique qui consiste à boire beaucoup sur un temps très court. Par exemple, on va avoir 10 shooters en face de soi et en quelques minutes, dans le cadre d'un jeu ou pas, on va boire ces 10 shooters. Voilà, donc ce qui fait un pic au niveau de l'alcoolémie qui est très fort, très intense, avec des risques de coma qui sont plus élevés que d'autres pratiques que de boire avec une consommation raisonnée et modérée. Il y a des comportements sexuels aussi qui peuvent être à risque, hein. Par exemple, avoir des pratiques sexuelles sans se protéger, sans préservatif, sans contraception aussi, ou des pratiques qui sont liées à la consommation de drogue, par exemple, ce qu'on appelle le chemsex. Voilà, il y a aussi des dépressions, un risque suicidaire qui est non négligeable aussi chez l'adolescent. Voilà, l'adolescence, si on devait faire une moyenne, par exemple, sur les questions de dépression, il y a à peu près 4 à 8% des adolescents qui peuvent rencontrer une dépression majeure. Hein. Donc ça se caractérise par une humeur dépressive, une irritabilité, un manque d'intérêt, un manque d'appétit, des troubles du sommeil, une fatigue, une dévalorisation. Il y a des dépressions plus mineures qui représentent à peu près 30 à 45% des adolescents qui passent par cette phase-là. Ça veut dire qu'il y a au moins deux critères de dépression qui peuvent être repérés dans ces formes-là. Des dysthymies ou des dépressions qui sont cette fois-ci mineures, moins inquiétantes, mais qui représentent quand même 2 à 8% des adolescents. Il y a des petits chiffres comme ça qui sont importants à retenir, à avoir en tête quand même, c'est que 70% des adolescents qui sont dépressifs font une tentative de suicide dans les 3 ans, à partir du moment où ces affects dépressifs apparaissent. Donc c'est quelque chose dont il faut pouvoir parler avec son enfant, c'est important. C'est quand même la deuxième cause de décès chez les adolescents, hein, le suicide. Il y a à peu près 1000 décès par an. Et, alors, chiffre un petit peu intéressant, c'est que ça concerne majoritairement les garçons. Il y a 75% des garçons qui sont concernés par ces décès annuels, là, en termes de suicide. C'est-à-dire qu'un garçon a 3 fois plus de chances, statistiquement, on va le dire comme ça, de se suicider qu'une fille qui traverse une période dépressive. Voilà, les idées suicidaires, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre chez 10% des garçons et 5% des filles. Donc, je vous ai un peu lancé beaucoup de chiffres, mais c'est pour avoir un petit peu une représentation de ce qui peut traverser les adolescents. Il y a des risques qui sont un peu plus graves, des risques de pathologie, de psychose notamment, qui est une pathologie dans laquelle on perd pied un petit peu avec la réalité. Et voilà, on pourra peut-être se questionner un petit peu sur les causes de ces difficultés-là. Mais voilà un petit peu le tableau qu'on peut dresser par rapport à tout ça.
Alors les causes, elles sont, je pense, protéiformes. Il y a aussi cette rébellion, hein, qu'on constate au sein des familles, les tensions, les conflits, les incompréhensions familiales. C'est assez fréquent pendant l'adolescence, hein. Après, ça dépend des familles. Mais comment, Agnès, toi, ton approche, elle peut aider les familles à apaiser ces tensions, à restaurer une forme de communication, et surtout, ce qui me semble très important, c'est la confiance mutuelle.
Alors, bon, moi, par rapport à, comme je le disais, hein, je n'ai pas encore d'expérience par rapport à l'activité que je viens de créer, hein, puisque je débute seulement. Ce dont je vais pouvoir parler, c'est plus de l'approche.
Théoriquement, hein, bien sûr.
C'est ça, tout à fait. Donc là, c'est sûr que quand on est comme ça, dans un conflit, dans une incompréhension, il n'y a plus de dialogue, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir justement quelqu'un de neutre et d'impartial qui va venir au sein de la famille. Refaire un petit peu de lien, relancer cette communication, faire en sorte que on puisse de nouveau se parler, qu'on puisse s'exprimer, parce que souvent quand on est en conflit, on va dire les choses, mais on va les dire de manière violente, et après on va parfois regretter ce qu'on va dire, et du coup ça risque de fermer complètement la communication.
Alors quand tu dis on, tu parles plutôt des parents ou plutôt des adolescents?
Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, parce qu'effectivement, quand on est, je dirais, dans une espèce de souffrance, parce qu'on peut aussi parler de souffrance, parce que quand il n'y a plus, je dirais, de possibilité de s'exprimer, de communiquer, qu'il y a une incompréhension totale d'un côté comme de l'autre, on peut dire des choses qui peuvent être dures, et puis les regretter. Donc là, je pense qu'il faut. Moi, ce que je veux dire et ce que je voudrais dire aux parents, c'est que les parents, ils font, en règle générale, ils font de leur mieux. Et qu'il faut justement les épauler, les guider, les rassurer. Et donner aussi quelques pistes, quelques outils qui peuvent du coup les aider dans cette tâche.
Alors Hugo, en tant que parent, quelles sont les erreurs courantes à éviter lorsqu'on fait face à la crise d'adolescence de son enfant?
Alors je pense que l'erreur la plus importante, ce serait de ne pas parler des difficultés que peut traverser l'adolescent, ou de faire de l'adolescence un sujet un petit peu tabou. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut avoir en tête et qu'il faut pouvoir éviter. Sous ces airs un petit peu distants, parfois, l'adolescent, il a quand même besoin d'être écouté et de parler avec ses parents. Il faut faire attention à ne pas dramatiser la situation et à garder en tête que c'est une période difficile, mais qui est normale et nécessaire dans le développement vers l'âge adulte. Alors, il y a tout un tas de petites choses qu'il faut essayer d'éviter. Par exemple, il faut éviter d'être intrusif vis-à-vis de son espace et de son intimité. Comme Agnès le disait tout à l'heure, il faut bien prendre la peine de toquer avant d'entrer dans sa chambre, par exemple. Ça veut dire aussi accepter de ne pas tout savoir en tant que parent. Ne pas le forcer à raconter ses aventures ou à raconter tout ce qui lui arrive. Il a besoin d'avoir son petit jardin secret quand même, c'est important. Il faut éviter de l'infantiliser et accepter que l'enfant qu'il était grandisse et soit en train de devenir un adulte. En fait, l'adolescence, c'est plus le bébé des parents. On peut pas l'obliger à faire ou à recevoir, par exemple, des câlins ou des bisous. D'ailleurs, j'en profite pour passer ce message que à cette période de l'adolescence, c'est important de parler de consentement, par exemple, avec l'adolescent. Donc c'est aussi les erreurs à éviter, c'est aussi de ne pas aborder ces sujets de prévention qui sont fondamentaux. Il faut éviter aussi de l'embarrasser ou de l'embrasser en public. C'est des mots qui se ressemblent mais qui vont ensemble. Là, sur cette question-là, il faut éviter de se moquer, de le caricaturer. Il ne faut pas minimiser ce qu'il traverse et ses ressentis, ses émotions. Il y a des choses qui peuvent être très fortes, qui peuvent être très intenses, et il faut faire preuve de compréhension par rapport à tout ça. Ce que les ados détestent le plus, c'est par exemple qu'on les compare aux autres. Ton cousin, lui, mais le voisin, lui, ça c'est assez insupportable. Et l'adolescent, il a besoin de se construire par lui-même, il a besoin d'être encore valorisé malgré le fait qu'il grandisse. Et il faut faire aussi attention, un dernier point qui me semble vraiment important, à ne pas projeter aussi nos désirs de parents et nos frustrations de notre propre passé. Il ne faut pas en faire des mini-soi. L'adolescent, c'est pas comme on aurait voulu faire du football et devenir un champion, le pousser et lui imposer presque de s'investir dans une activité qui lui plairait peut-être pas ou moins. Il faut pouvoir respecter aussi ses envies et ses désirs. Il faut éviter de le persécuter, on va dire ça comme ça, en le suivant avec un GPS. Il faut pouvoir lui faire confiance et il faut pouvoir surtout adapter nos réactions de manière proportionnelle. C'est-à-dire que je vois souvent dans les familles des crises qui éclatent parce que l'adolescent n'a pas vidé le lave-vaisselle et que c'est inadmissible et que c'est une règle qu'il connaît bien depuis des années. Et pour autant, à d'autres moments, un adolescent qui va rentrer d'une soirée complètement éméché, alcoolisé, voire avec des mises en danger, des prises de substances, et là où les parents vont être un petit peu plus mal à l'aise à aborder ces questions-là, et c'est des questions qui vont passer à la trappe. Ça, c'est, il faut faire attention, il faut pouvoir proportionnaliser nos réponses, éviter de faire une crise quand il s'agit d'une lave-vaisselle ou d'en faire un conflit, et à l'inverse, mettre un point d'importance, sans que ça en vienne au conflit, mais à aborder des sujets qui sont peut-être plus délicats et difficiles. Et c'est là où l'accompagnement des professionnels peut être utile et nécessaire parfois, quand c'est compliqué en tant que parent d'établir ce dialogue-là avec notre adolescent.
Alors, il y a un artiste qui n'a pas su communiquer efficacement avec son père lorsqu'il était adolescent. Alors, il a fait à l'âge adulte et en chanson, c'est Kendrick Lamar avec Father Time.
I come from a generation of home invasions, and I got daddy issues, that's on me. Everything them four walls that taught me, may have is buried deep, that man knew a lot, but not enough to keep me past them streets. My life is a plot, twisted from directions that I can't see. Daddy issues all across my head, told me fuck a foul, I'm teary-eyed. Wanna throw my hands, I won't think out loud, a foolish pride. If I lose again, won't go in the house, I stayed outside. Laughing with my friends, they don't know my life. Daddy issues made me learn losses, I don't take those well. Mama said that boy is exhausted, he said go fuck yourself. If he give up now, that's gon' cost him. Life's a bitch, you could be a bitch or step out the margin. I got up quick, I'm charging baskets and falling backwards, trying to keep balance. Oh, this the part where mental stability meets talent. Oh, this the part he breaks my humility just for practice. Tactics we learn together, so it loses forever. Daddy issues.
Early morning wake-ups, practicing on day offs. Tough love, bottled up. No chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase. Early morning wake-ups, practicing on day offs. Tough love, bottled up. No chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase I need.
I got daddy issues, that's on me. Looking for I love you, rarely empathizing for my relief. A child that grew accustomed, jumping up when I scrape my knee. Cause if I cried about it, he surely tell me not to be weak. Daddy issues, hit my emotions, never express myself. Man should never show feelings, being sensitive never helped. His mama died, I asked him why he going back to work so soon. His first reply was son, that's life, and bills got no silver spoon. Daddy issues, fuck everybody, go get your money son, protect yourself, trust nobody, only your mama. This made relationships seem cloudy, never attached to none. So if you took some likings around me, I might reject the love. Daddy issues kept me competitive, that's a fact, nigga. I don't give a fuck what's the narrative, I am that nigga. When Kanye got back with Drake, I was slightly confused. Guess I'm not mature as I think, got some healing to do. Egotistic, zero giving fucks, and to be specific, need assistance with the way I was brought up. What's the difference when your heart is made of stone, and your mind is made of gold, and your tongue is made of sword? But it may weaken your soul. My niggas ain't got no daddy. Grow up overcompensating. Learn shit about being a man in disguise it as being gangster. I love my father for telling me to take off the gloves. Cause everything he didn't want was everything I was. Until my partners that figured it out without a father, I salute you. May your blessings be neutral to your toddlers. It's crucial. They can't stop us if we see the mistakes. Till then, let's give the women a break. Grown men with daddy issues.
Early morning wake-ups, practicing on day offs. Tough love, But hold up, no chase on me, no chase on me, no chase on me, no chase on me, no chase on me.
13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est en direct sur RCN 90.7. On parle de crise d'adolescence. Comment la gérer? Que faire de nos adolescents qui sont en constante mutation, qui sont parfois en conflit avec les parents? Et en tant que parent, comment réagir lorsqu'on est face à un adolescent qui est en train de traverser ce qu'on appelle entre guillemets une crise? Et donc je rappelle que j'ai pour invité Agnès Nicolas Schmitt qui fait de l'éco-médiation et Hugo Varnusson qui est psychologue clinicien et psychothérapeute. On vient d'écouter ce morceau donc de Kendrick Lamar qui s'appelle Father Time, où voilà, maintenant à l'âge adulte, avec du recul, il se dit j'aurais peut-être dû parler à mon père, et cette ouverture là on l'a pas toujours forcément. Parfois en tant qu'adolescent on ne sait pas si il faut parler aux parents, comment il faut le faire. Et il y a quelques outils qui existent pour aider à démêler un peu ces situations nouées, parfois apaiser ces conflits. Et toi, Agnès, tu proposes notamment ce qu'on appelle le brain gym, tu proposes de l'auto-hypnose. En quoi c'est important comme approche? Et surtout, est-ce que tu peux nous définir ces outils?
Alors, en fait... Ça, ce sont en fait des pratiques que j'ai découvertes. La brain gym, c'est grâce à un de mes fils. La brain gym, en fait, ce sont 26 mouvements qui peuvent du coup être effectués. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est qu'on n'est pas qu'un cerveau. Ça paraît un petit peu bébête de dire ça, mais on a un corps. Et c'est vraiment de lier les deux. Mmh. Et qu'on apprend avec son cerveau, mais on apprend aussi avec son corps. Mmh. Et donc ces 26 mouvements vont permettre de retrouver un équilibre, de mieux apprendre, d'avoir aussi également une souplesse. Donc ça, c'est un outil que je peux éventuellement utiliser suivant, je dirais, la situation, s'il y a effectivement un problème d'apprentissage, par exemple, chez le jeune que je vais rencontrer. Ça peut être ça. Après, j'ai mis l'auto-hypnose. Alors, pourquoi j'ai mis l'auto-hypnose? Bon, j'ai appelé ça l'auto-hypnose et j'ai pas trouvé trop d'autres, je dirais, dénominations. Mais en fait, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai découvert il y a quelques années, pour lesquelles j'ai été formée et que je pratique, que je pratique toujours. C'est là aussi, on passe par le corps, parce que c'est important parce qu'on s'exprime, on parle. Donc j'utilise aussi la communication non violente, l'écoute active, enfin, etc. Donc tout ça, c'est très très bien, mais il y a beaucoup de choses qui passent par le corps. Et avec cette auto-hypnose, donc que j'ai appelée auto-hypnose, mais que j'aurais pu appeler relaxation, méditation, c'est vraiment un mix de ça. C'est se recentrer. C'est se recentrer, c'est se poser, et c'est laisser, je dirais, passer aussi les émotions par le corps.
Donc laisser le corps, c'est la place du corps est centrale, hein, surtout dans cette période-là d'adolescence.
Elle est centrale tout le temps, parce que ça peut être utilisé effectivement pour les enfants, les ados, mais pourquoi pas aussi pour les parents. C'est aussi trouver un moment où on va se poser, par exemple, si c'est justement ce que moi je pratique en termes d'auto-hypnose, ça peut être pratiqué avec les parents qui ont besoin justement un peu de se recentrer et de mettre un petit peu de paix. De paix et un petit peu de sérénité.
C'est vrai que là, l'émission a vraiment pour thème cette question des adolescents, mais ce qui revient dans vos discours l'un et l'autre, c'est cette place des parents finalement dans l'accompagnement de cette crise d'adolescence. Hugo, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils aux parents sur la manière de communiquer, par exemple, efficacement avec leur adolescent pendant cette période qui peut être parfois difficile?
Oui, oui, bien sûr. Alors, déjà, le premier conseil que j'aurais envie de donner, c'est de soigner son enfant avant qu'il devienne adolescent. On sait que dans ce qui génère des difficultés à l'adolescence, une part non négligeable de ces problématiques-là viennent en fait de l'enfance. Et des troubles de l'attachement, par exemple, qui ont pu se créer pendant l'enfance, ou les carences affectives, ou ce genre de choses. C'est d'ailleurs un petit peu à ça que font référence les « daddy issues », dont parle Kendrick Lamar dans sa chanson qu'on a écoutée tout à l'heure. C'est la manière dont l'attachement peut venir poser problème et parfois mettre en péril la communication après d'un enfant, d'un adolescent avec ses parents. Alors donc, soigner son enfant, c'est vraiment le plus important, parce qu'on sait qu'il y a une continuité importante des problématiques psychiques et psychiatriques de l'enfance à l'adolescence, et puis plus tard de l'adolescence à l'âge adulte. Alors, pour communiquer de manière efficace avec son adolescent, il faut identifier déjà le bon moment. Il faut éviter d'aborder les sujets qui fâchent et qui sont compliqués lorsque l'adolescent n'est pas dans de bonnes dispositions. S'il est de mauvaise humeur, par exemple, ça, il vaut mieux attendre. Un autre point important pour communiquer efficacement, c'est de dire les choses et de ne pas faire de tabou, comme je le disais un petit peu tout à l'heure. L'adolescent, il est assez mature pour parler des sujets les plus complexes, qu'il s'agisse de sexualité, de contraception, de prévention, de questions existentielles, philosophiques, religieuses. Vous pouvez lui parler de tout à votre adolescent. C'est pas encore un adulte, mais c'est un adulte en devenir, et il faut pas l'infantiliser. Comme je l'ai dit juste avant, parfois il faut savoir aussi écouter, être présent et disponible psychiquement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque la question du corps, vous parliez de ça tout à l'heure, et c'est vrai qu'elle est fondamentale pour l'adolescent et pour les parents. Il y a notamment cette question de la métacommunication, qui est en fait toute la communication qui va se faire via les aspects non-verbaux, à travers le corps, comment on va communiquer avec son corps, auquel l'adolescent va être assez sensible. On fait part indirectement à notre adolescent d'agacement en levant les yeux au ciel, qu'on lui montre dans notre comportement qu'on est plus concentré sur la cuisine ou sur autre chose, qu'on est en train de faire autre chose alors qu'il évoque un sujet important pour lui, une peine de cœur, des difficultés scolaires, là on va lui renvoyer un très mauvais message et ça va venir vraiment abîmer la qualité de la communication qui sera possible avec notre adolescent. Donc il faut vraiment être disponible, écouter, il faut aménager des temps pour ça. Si l'adolescent nous voit tout le temps occupé, comme on peut l'être beaucoup aujourd'hui sur notre smartphone, sur notre travail, être préoccupé, être tout le temps sur l'ordinateur, tout le temps en train de faire quelque chose, ça va pas ménager de temps dans lequel on va être disponible et dans lequel l'adolescent va pouvoir venir s'adresser à nous. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir aménager des temps comme ça, comme il peut y avoir dans certaines familles, par exemple le temps du repas, qui est un petit peu ritualisé, dans lequel chacun est disponible, chacun est ouvert à l'autre, on évite d'amener les téléphones à table, par exemple, et on essaye de pouvoir échanger sur ce qu'on a vécu dans la journée. Il faut aussi pouvoir le valoriser, l'encourager, pour éviter qu'il soit dans un sentiment d'injustice, et surtout, prêter attention à ce qui est important pour lui. Ça peut paraître dérisoire pour nous, parfois, quand il nous parle, je sais pas, pour une adolescente de K-pop ou de ses préférences musicales ou de ce qu'elle a vu sur Instagram ou de ce que notre ado a vécu dans le cadre de sa session de foot. Et pourtant, c'est sa vie, c'est ce qui est important pour lui. Donc à ce moment-là, il faut vraiment être attentif. Si on sent que c'est pas le moment parce qu'on est vraiment occupé et que la tâche ne peut pas être repoussée, il faut pouvoir le dire à l'ado. Écoute, là c'est compliqué, mais je sens que c'est important pour toi. Ce que je te propose, c'est qu'on en parle tout à l'heure, avant le repas, après le repas. T'inquiète pas, j'ai ça dans ma tête, on y pensera. Et là, vous lui témoignez de l'attention, de l'affection, de l'importance. Et ça, c'est vraiment fondamental si vous voulez conserver une bonne communication avec votre adolescent.
Alors, donc, ouais, c'est question d'attention. Tout à l'heure, Agnès, tu mentionnais l'importance de l'écoute active. On arrive presque au terme de cette émission. Très rapidement, pour nos auditeurs qui pourraient avoir besoin de tes services, comment ils peuvent te contacter et bénéficier de ton accompagnement en éco-médiation de vie?
Alors, ils peuvent me contacter soit par téléphone, soit par mail via mon site, soit via Facebook.
Alors, rappelle ton site.
Alors, mon site, donc, c'est care-ecomediation.fr.
Care, K-E-R.
K-E-R.
C'est ça, voilà. Mm-hmm.
Ecomediation.fr. Et donc là, sur le site, il y a toutes les coordonnées, les informations concernant effectivement ma pratique, mon parcours et donc la possibilité de me contacter.
Hugo, pour terminer cette émission, à quel moment on peut se dire que les signes que nous donne un adolescent sont graves et nécessitent l'intervention d'un ou d'une professionnelle et aussi quels sont les avantages de consulter un psychologue ou un psychothérapeute pendant la crise d'adolescence?
Alors, y a des signes de souffrance qui ne manquent pas, hein, comme par exemple, je le disais tout à l'heure, les scarifications, les conduites à risque qui se multiplient. Y a aussi l'indicateur, le thermomètre un petit peu des résultats scolaires, hein, qui sont très importants à considérer. Quand vous voyez que les résultats de votre adolescent chutent et ne remontent pas, c'est surtout ça auquel il faut être attentif. Là, ça peut être important de consulter. Les questions de violence, l'anxiété, le mal-être, tout ça, ça peut se traduire aussi par des troubles et des plaintes qui sont somatiques. Si votre adolescent, il est souvent malade, par exemple, qu'il a mal au ventre, qu'il manque d'appétit, qu'il est tout le temps fatigué, qu'il a du mal à se concentrer, tout ça, c'est des signes qui doivent alerter et qui doivent faire penser à aller consulter un professionnel pour pouvoir évaluer un petit peu tout ça. Donc, c'est aussi l'avantage du psychologue ou du psychothérapeute. En tout cas, ça fait partie de son travail. C'est que quand on reçoit quelqu'un en consultation, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, on va évaluer un petit peu la situation. Donc, le premier intérêt qu'il peut y avoir, c'est déjà de pouvoir rassurer les parents, de pouvoir faire un point et de pouvoir savoir exactement où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est une difficulté que l'adolescent traverse qui est inquiétante? Est-ce qu'on doit mettre en place quelque chose? Parfois, il suffit d'une consultation ou deux pour écarter la difficulté, pour se dire que non, là, on a évalué les choses, il ne s'agit pas de quelque chose d'inquiétant, on donne quelques pistes, quelques conseils aux parents, parfois c'est suffisant. Quand les problématiques sont plus graves, alors à ce moment-là, l'importance du travail du psychologue ou du psychothérapeute, ça va être de vraiment faire une démarche diagnostique qui va permettre de mettre le doigt et mettre le point sur qu'est-ce qui pose problème à l'adolescent. La prise en charge, elle peut être évidemment proposée à destination de l'adolescent, mais aussi parfois du parent, hein, parce que l'adolescence, parfois ça fait beaucoup de bruit chez l'adolescent, mais c'est plutôt les parents qui en souffrent, ça peut arriver. Et le thérapeute, il peut être là aussi pour accompagner pendant cette période difficile, pour médiatiser en fait les échanges entre l'adolescent et ses parents. Il peut être là pour proposer un espace de parole confidentiel dans lequel l'adolescent va pouvoir venir un petit peu se confier sur ses difficultés personnelles. Pour ce qui est du quand envisager de consulter un psychologue, c'est à partir du moment où il y a de la souffrance, quoi. À partir du moment où la souffrance, elle est là pour le parent ou pour l'enfant. Et si on se sent dépassé, il ne faut pas hésiter à aller consulter l'avis d'un professionnel. Surtout, c'est aussi indiqué si l'adolescent il est en demande d'une consultation ou en demande d'une aide extérieure. Il faut vraiment porter crédit à ces demandes-là et rassurer l'enfant ou l'adolescent sur le fait que le psychologue, ce n'est pas pour les fous. Alors, il y a plein d'endroits auxquels on peut s'adresser pour consulter. Pour les adolescents spécifiquement, il y a aussi les maisons des adolescents qui sont gratuites et anonymes, auxquelles les adolescents peuvent se rendre même sans l'accord des parents. Je ne peux pas terminer l'émission sans parler aussi du numéro de prévention du suicide qui est le 3114 qui est adressé pour les adolescents mais aussi pour les proches qui s'inquiètent parfois et qui ne savent pas comment réagir. Il y a tous les dispositifs de prise en charge gratuits aussi du CMP, du CMPP, qui sont des institutions qui sont habituées à prendre en charge aussi les jeunes, de soins, de psychiques et d'accompagnement aussi sur le versant scolaire. Et puis pour ce qui est des questions d'orientation, quand c'est vraiment la question de l'avenir qui pose problème, il y a les missions locales qu'Anaïs connaît bien puisqu'elle travaillait à cet endroit-là, si j'ai bien retenu, ou les CIO qui sont les centres d'orientation scolaire. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut saisir et en tout cas, si à un moment ça nous tracasse, si ça nous trotte dans la tête et qu'on n'est pas serein, eh ben c'est que c'est le moment d'aller consulter et d'aller demander un avis.
Très bien, et bien je pense que le message est passé pour nos auditeurs. Merci beaucoup Hugo Varnusson. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute, chargé d'enseignement à l'IRTS et à l'IFSI. Merci à toi Agnès d'être venue sur le plateau aujourd'hui. Donc Agnès Nicolas Schmitt, éco-médiatrice qu'on retrouve sur Facebook et sur le site CARE Éco-Médiation. J'espère que nos auditeurs ont pu apprécier cette émission et que les adolescents qui nous écoutent ont pu avoir quelques conseils bénéfiques pour la suite. Et on va se quitter en musique avec Orelsan qui s'adresse aux enfants et aux adolescents dans le morceau « Note pour trop tard ».
Ok, j'avais ton âge, y'a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y'a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute. J'ai pris quelques notes. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde, parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y'a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Fais-toi une raison, y'a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison. Même quand t'as raison, s'il y a une chose que tu dois pas remettre en question. T'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas ce soir. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids. Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir. Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire. Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux. Apprends à te vendre un peu mieux, tu baiseras dans un mois ou deux. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économises des pleurs. Ensuite t'auras peur de t'investir, tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros tu couches avec ta meuf en pensant à une autre. T'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. Ok. T'empêcheras jamais les gens de parler. Et comme t'es chelou, y'a peut-être moyen que les gens veuillent te frapper. Tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre. Mais même musclé, ça fait toujours mal de prendre une droite. Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers. Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur. Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur. Connais ta hauteur, va pas te surclasser. Tu verras des fois, tu perdras contre des gars que tu trouvais nul à chier. Bien sûr, la vie est injuste. Si t'aimes pas les lois, sois pas un putain de juge. Ne crois pas les insultes, y'a pas de race pour être un bâtard. Pour être un fils de pute, pas besoin d'avoir une daronne sur un trottoir. Y'a pas de sexualité pour être un enculé. Plus tu réagis, plus on dirait que tu te sens visé. Laisse glisser. Les meilleures blagues sont les plus méchantes ou les plus bêtes. Mais les pires êtres humains sont des losers cruels. T'en prends jamais aux plus faibles. Garde les vannes dans un coin de ta tête. Ça rentrera dans un texte, dans un film ou dans un sketch. L'école est un calvaire. Y a pas grand chose à faire. Arrêter, c'est partir trop tôt dans une autre galère. Tâche ton sac à dos en l'air, t'auras le poids de la société sur les épaules. Un patron, ton père et ta mère. Trois quarts des cours servent à rien, mais les actrices de boule en soient témoins. Rien branler fait qu'éloigner la fin. Tu dis qu'on verra bien, tu fais le malin, mais t'es fragile. Comme le dépistage, tu regrettes à l'examen. L'école est un filtre qui rend tout très chiant. Comme les films en noir et blanc, le plus dur c'est de rentrer dedans. C'est plus dur quand t'appréhendes comme ta première fois. Je fais des métaphores sexuelles depuis tout à l'heure parce que tu penses qu'à ça. Dis-toi que les latinas sont les plus bonnes du monde, écoute en espagnol. Dis-toi qu'en chimie tu pourrais faire de la drogue. Arrête d'apprendre par cœur des trucs que t'as pas compris. Et en philo t'étais pas censé raconter ta vie. Ah oui, personne t'oblige à fumer de la weed. En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs. Être défoncé c'est même pas la partie que tu préfères. Quand t'es déchiré, tout ce que tu fais, c'est faire semblant d'être clair. La partie que tu préfères, c'est partir en bande à Jardiland, voler du bambou et fabriquer un bang. T'as juste besoin d'une passion, donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux. À part traîner avec ta bande, surtout pas rater la dernière rumeur, le dernier truc marrant. Honnêtement, tu raterais pas grand chose si tu partais 4 ans. Quoique, c'est important, fais de la merde tant qu'il est encore temps. Pour pas qu'un jour tu te réveilles à 40 ans, genre putain, je vais crever, mais j'ai jamais kiffé. Ma famille m'empêche de vivre, je vais devoir les quitter. Pour sniffer en boîte de nuit, trouver des gamines à vampiriser. J'en vois plein, donc petit terroriste, va t'éclater. Sors en soirée, même si j'avoue, tu vas te faire recaler. Tu rentreras la semaine prochaine ou l'année d'après. De toute façon, t'allais pas baiser ce soir si je dois te le rappeler. Si tu rentres, prends ton ticket de vestiaire en photo. Rends-toi compte que tu sais pas boire, t'es mort trop tôt. Quand ça devient une fierté de te mettre des grandes doses, c'est que tu t'attaches à pas grand chose. Arrête de flipper, si tu veux, va danser. La seule règle sur la piste, c'est fais pas des trucs que t'as jamais tenté. Si jamais tu t'endors en premier dans une soirée, se regarder dans la glace, c'est la base dès que tu viens de te lever. Au cas où, ça t'évitera de passer les repas de famille avec une bite dessinée sur la joue. C'est repas de famille où tu t'ennuies, où on parle très fort pour dire des choses très banales. Déjà on se parle et c'est pas mal. Les vérités sont compliquées, les clichés sont stables. Désolé s'il n'y a pas que des experts à ta table. Tu bloques sur les défauts des autres et c'est ton pire défaut. La vie c'est des cycles, c'est pour ça que je retombe sur les mêmes mots. Sois pas parano sur qui sont tes vrais amis. Y a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps faire le tri. J'ai jamais regretté de demander conseil ni d'appeler quelqu'un. Souvent tu crois qu'ils sont chelous, c'est juste ça capte pas très bien. La même histoire à plein de version. La meilleure façon de sortir d'une embrouille, c'est poser des questions. Arrête de passer ta vie à fuir, angoissé par l'avenir, parce qu'il n'y a rien à faire pour se préparer au pire. Comme les attentats, les mauvaises nouvelles frappent quand t'y attends pas. Des proches un peu pressés partiront avant toi. Tu verras des gens heureux prendre un appel, leur visage se décompose et rien n'est plus jamais pareil. Y a rien à faire à part être présent, panser les plaies, changer les pansements. Le seul remède, c'est le temps.